affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. La rupture de pente religieuse du milieu des années 60 a pris les allures d'un crack, avec tout ce que le terme suggère de brutalité et de surprise, y compris pour les spécialistes, même si certains facteurs ont contribué à le rendre difficile à percevoir sur le moment. Au lendemain de la guerre, dans les milieux sensibles à la problématique missionnaire, on s'attendait plus ou moins à un événement de ce genre, bien que l'on pensât que la rupture viendrait plutôt des paysans et des ouvriers, ou plus exactement des paysans devenus ouvriers, via l'exode rural, qui a de fait joué un rôle. D'où pensait-on l'importance pour l'Église de reprendre pied rapidement dans cette classe pilote de l'histoire, ou présumée telle. Ce crack s'est produit à la faveur de Vatican II, avant mai 68, et la publication en juillet de la même année de la fameuse encyclique « Humanae Vitae » de Paul VI sur la contraception, traditionnellement invoquée pour l'expliquer. Non que ces deux événements n'aient pas eu d'importance, ils ont amplifié la vague, mais ils ne l'ont pas créé. Vatican II semble avoir été en définitive cette réforme, probablement nécessaire, qui a déclenché la révolution qu'elle prétendait éviter, comme jadis les États généraux dans la France de la fin du XVIIIe siècle. Voici quelques extraits de la conclusion d'un livre au titre à la fois tranchant et qui nous plonge dans le sujet de notre émission du jour, « Comment notre monde a cessé d'être chrétien ». Ce livre a reçu le prix Antoine Bernheim 2018, décerné par l'Académie des inscriptions et belles lettres. Il a été écrit sous la plume de Guillaume Cuchet, qui est dans notre studio pour nous en expliquer la teneur. Guillaume Cuchet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris-Est-Créteil. Vous avez publié de nombreuses histoires, ouvrages concernant l'histoire du christianisme. Celui-ci fera date et fait débat, car il va à l'encontre de la plupart des explications données à ce crack. Mais peut-être, avant de s'interroger sur le comment notre monde a cessé d'être chrétien, peut-être faut-il faire quand même un état des lieux et s'interroger sur cette déchristianisation, les aspects qu'elle prend et son ampleur.
Oui, ben moi je suis parti effectivement de chiffres qui m'ont été fournis en partie par ce personnage qui s'appelle Fernand Boulard et dont on en reparlera, qui était dans l'Église catholique le grand spécialiste des questions sociologiques au XXe siècle. Et quand je suis reparti des chiffres qu'il donnait au milieu des années 60 dans les cours qu'il pouvait donner sur l'état du catholicisme français à ce moment-là, et je ne vais pas vous assumer de chiffres, mais il en citait deux qui étaient significatifs. Le premier, c'était que sur les quelques 800 ou 850 000 petits Français qui naissaient chaque année, c'était l'époque du baby-boom, enfin la fin du baby-boom, il y avait 93% d'entre eux qui étaient baptisés dans l'Église catholique dans les 3 mois. Avec des pics d'empressement au baptême au deuxième ou troisième mois, qui fait qu'on avait quasiment baptisé la génération au bout de 3 mois. Donc 93% dans les 3 mois, et aujourd'hui, si j'en crois les chiffres officiels de la Conférence des évêques de France, on est autour de 30% dans les 7 ans. Donc premier en 50 ans, premier décrochage spectaculaire. Et puis le deuxième chiffre significatif, c'est celui de ce qu'on appelait la pratique dominicale, c'est-à-dire qui va à la messe tous les dimanches, qui était une obligation pastorale et canonique, ce qui est toujours d'ailleurs pour les catholiques en théorie une obligation canonique, mais sur laquelle le clergé à l'époque insistait beaucoup. Et la moyenne de la pratique dominicale dans la France de 1965, c'était de 25%. Il y avait un Français sur 4 parmi les adultes, hein, parce qu'il y avait toujours beaucoup plus d'enfants et de jeunes à la messe dans la France de l'époque. Donc 1 sur 4, avec des écarts régionaux considérables, parce que ça pouvait aller de 95% dans le nord de la Vendée à moins de 2%, 150 km plus loin, dans le Limousin. Donc vous aviez des moyennes qui ne signifiaient pas grand-chose, mais... Voilà. Et aujourd'hui, la dernière enquête quantitative un peu solide qui a été publiée dans La Croix parlait de 1,8% de pratiquants dominicaux, de gens qui vont à la messe tous les dimanches dans la France d'aujourd'hui. Donc vous voyez, 25 à 1,8. Donc je suis parti un peu de ça. Je suis parti de ces décrochages statistiques spectaculaires en essayant à la fois d'en mesurer l'ampleur et d'en proposer une chronologie avant de passer aux explications et à l'interprétation.
Alors, puisque vous parlez de chronologie, est-ce qu'il ne faut pas faire jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur et analyser justement cette fameuse carte Boulard que vous reproduisez dans les premières pages de votre ouvrage.
Oui, alors la carte Boulard, qui est un des documents les plus fascinants de l'histoire de France, François Furet disait que c'était le document le plus fascinant de l'histoire de France, à la fois une énigme en soi et un répertoire d'énigmes locales. C'est la carte de la pratique religieuse dans la France rurale, pas dans les villes, mais dans la France rurale. Et cette carte, donc, quand on a découvert la première édition en 1947, qui a eu d'autres éditions ultérieures, jusqu'aux années 60-70, et fait apparaître des contrastes extraordinaires de niveau de pratique dans la France d'après-guerre, contrastes dont on trouve l'équivalent nulle part ailleurs. Il n'y a aucun pays européen où on trouve des écarts dans les campagnes, ça peut aller de 0 à 100. Ça se trouve nulle part ailleurs. Dans les villes, c'est jamais 0 à 100, parce que vous descendez jamais au-dessous de 5 et vous montez jamais au-dessus de 45, mais dans les campagnes, c'est de 0 à 100. Et on a découvert à ce moment-là cette carte célèbre avec à la fois une grande diagonale du vide, comme on l'a appelé, religieux, du nord-est au sud-ouest des Ardennes, aux Landes, avec tout le bassin parisien, à l'ouest du Massif central, plus la vallée du Rhône, le Languedoc, un peu de Provence. Bon, il y a une France déchristianisée qu'on découvrait spatialement beaucoup plus importante qu'on ne le pensait. On savait bien que tous les pays ne se valaient pas dans les campagnes sur le plan religieux, mais à ce point-là, on en a été surpris. Et puis on découvrait une distribution périphérique des bastions du catholicisme français, très étrange, c'est-à-dire à la fois le Nord, les Flandres, si vous voulez, la Lorraine, l'Alsace, les Vosges, le Jura, une partie des Alpes, tout le rebord sud-est du Massif central, de Saint-Étienne à l'Aveyron, en gros, hein, et puis le Pays basque et le gros bloc de l'Ouest. Donc il y avait cette géographie très curieuse, cette distribution périphérique du catholicisme français. C'était un peu les deux énigmes léguées aux historiens par la carte Boulard. Comment expliquer cette déchristianisation très importante et pourquoi le catholicisme résiste aux marges de l'espace, d'une certaine façon.
Parce qu'à l'époque, donc, le Fernand Boulard est un prêtre. Et ce qu'il produit, c'est un document qui a une vocation pratique. C'est une sorte de carte d'état-major. Qui est destiné à offrir des directives sur les endroits où il convient de mettre les moyens, de lancer des missions. C'est lié à l'élan missionnaire et à la nécessité pour l'Église de reconquérir des terres qui lui semblent perdues ou en voie d'être perdues, c'est bien ça ?
Oui, on ne travaille pas en vain dans l'Église. Ils se sont embarqués dans ces opérations sociologiques très lourdes parce qu'ils voulaient mieux connaître l'état réel du catholicisme français et y adapter leur pastoral, milieu par milieu, région par région. Et d'ailleurs, la typologie de Boulard distingue les pays dits chrétiens, où il y a plus de 45% des adultes qui vont à la messe. Ceux qui sont au-dessous sont des pays, disons, de conformisme chrétien, considérés comme tels. Et puis, le dernier cas de figure, c'était les pays dits de mission, comme s'il pouvait y avoir des pays de mission dans la France de 1947 qui fournissaient les trois quarts des missionnaires catholiques dans le monde à l'extérieur. Ça faisait un peu bizarre. Mais il y avait quand même des pays de mission dans les campagnes françaises. Et le pays de mission commençait pour Boulard à cette date quand il y avait 20% d'enfants non catéchisés. Inutile de vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a
ça
plus de pays de mission. Aujourd'hui, ça ferait rêver. Et c'était très minoritaire. Il y avait très peu de pays de mission dans la France de 1947. C'était aussi un des buts de Boulard de rassurer un peu tout le monde en disant, bah, après tout, les pays de mission, c'est encore l'exception.
Mais ça signifie qu'à l'époque, quand même, l'inquiétude est déjà là, la nécessité d'élaborer une stratégie est présente et de se confronter à une réalité qui est peu ou prou angoissante ou perçue comme telle par le clergé.
Oui, c'est vraiment une motivation missionnaire. Il y a une grande angoisse devant la déchristianisation en cours et en particulier de certains milieux, notamment du monde ouvrier, dont on découvrait effectivement des niveaux de pratique très bas, et avec d'autant plus d'angoisse qu'à la fois c'était le monde des pauvres, celui auquel, si l'Évangile tenait la route, on aurait dû annoncer en priorité la bonne nouvelle du christianisme, et en même temps c'était dans une ambiance un peu marquée par le marxisme, c'était censé être la classe qui allait ouvrir le monde de demain, et donc si on n'y était pas, on ne serait pas présent dans le monde de demain. Donc l'Église avait cette situation un peu paradoxale, qu'elle n'était pas là où elle aurait dû être théologiquement et surtout socialement, parce que on imaginait un peu, même sans être marxiste, hein, il y avait une espèce de marxisation mentale qui fait qu'on s'imaginait que ça passerait par le monde ouvrier, très rare dans le monde catholique. Le père Fessard était des gens qui disaient que c'était une vue de l'esprit, qu'il ne fallait pas raisonner dans ces termes-là, mais enfin, Boulard, en tout cas, en était persuadé, lui.
Alors ça, ce sont les conclusions pratiques qu'il pouvait en tirer, mais s'agissant des disparités géographiques, quelles étaient les explications apportées à l'époque, qui peuvent d'ailleurs nourrir la réflexion sur la reconquête?
Alors, les explications à l'époque, elles étaient un peu sommaires, et Boulard était plutôt quelqu'un qui décrivait les situations plutôt qu'il ne les expliquait. Mais en revanche, on a trouvé un élément clé d'explication quelques décennies plus tard, quand un historien américain contemporain, qui s'appelle Timothy Tackett, qui est l'un des grands spécialistes de la Révolution française, a dressé la carte du serment prêté par le clergé à la Constitution civile sous la Révolution. Je vous la fais courte, mais en gros, la Révolution s'est embarquée dans une réforme de l'Église de France via ce texte qu'on appelle la Constitution civile du clergé, qui en changeait fondamentalement les structures. On avait prévu d'élire le clergé, d'élire les évêques, etc. Ça a suscité pas mal de résistance, et du coup les révolutionnaires ont imaginé d'exiger de tous les prêtres dans les paroisses qu'ils prêtent un serment de fidélité à ce texte. Et un dimanche donné de l'année 1791, une sorte d'énorme référendum sur la politique religieuse de la Révolution, le clergé devait prêter ce serment ou s'y refuser. Et quand Timothy Tackett a projeté dans l'espace ce serment, c'est-à-dire où le clergé a refusé la politique religieuse de la Révolution et où il l'a accepté, il a retrouvé la carte Boulard. Ce qui voulait dire concrètement que les régions où le clergé réfractaire avait dominé, avait refusé la Révolution, étaient devenues les bonnes régions religieuses du 19e et du 20e siècle, et vice-versa. Et comme le clergé s'est coupé en deux, à ce moment-là, 50-50, en gros, c'était évidemment un événement générateur de la carte, en quelque sorte.
Alors, si je suis un contre-révolutionnaire d'aujourd'hui, j'en déduis que le clergé qui ne prête pas serment a plus de succès dans ses entreprises que celui qui a prêté serment. Mais c'est évidemment beaucoup trop simple comme explication. Est-ce qu'on ne peut pas aussi en déduire que les régions où le clergé a prêté serment étaient déjà des régions dans lesquelles la ferveur religieuse était beaucoup plus tiède? Qu'en déduire? Parce que finalement, ouais. Expliquer la carte Boulard par la carte
Tackett,
ça ne fait que transférer le questionnement dans le temps.
Très juste. Si la carte Boulard s'explique par la carte Tackett, alors d'où vient la carte Tackett? C'est ça la question. Et du coup, on s'est posé la question, on a remonté le fil du temps au 18e, 17e, 16e siècle pour essayer d'aller la chercher à partir des indices dont on dispose, parce que dans la France d'avant 1789, la pratique dominicale est généralisée, donc vous avez une espèce de façade de pratique dominicale qui vous empêche de voir ce qu'il y a derrière. Bon, en gros, il y a eu deux hypothèses. Vous avez ceux qui ont dit, oui, eh ben, cette carte existait déjà avant, sous l'Ancien Régime, simplement, elle ne se voyait pas. C'était une carte de ferveur différenciée, et puis du jour où la pratique est devenue libre, ne sont restés pratiquants que ceux qui avaient une ferveur minimale, et tous les autres s'en sont dispensés. Donc la carte est apparue au moment de la Révolution, mais elle existait cachée derrière cette façade de pratique généralisée avant. C'est une première interprétation. Et puis il y a une deuxième interprétation de gens qui ont dit « Non, en fait, certes, il y avait des situations locales contrastées, mais la Révolution a en quelque sorte soudé ces régions entre elles, les régions qui allaient devenir les régions chrétiennes du 19e, qui ont eu chacune leur raison spécifique de refuser la politique religieuse de la Révolution et d'entretenir une ferveur catholique dans la foulée. Mais ce qui est nouveau avec la Révolution, c'est qu'au fond, ça les fédère. On calcifie les camps, exactement. Ça a soudé la carte, et la carte est devenue structurante de l'histoire de France, c'est-à-dire qu'ensuite, elle a généré le clivage droite-gauche, les inégalités de vitalité démographique, de consommation de l'alcoolisme, ça correspond aussi à la carte de l'alcoolisme, du suicide de Durkheim, enfin, de toute façon, cette carte, on l'a retrouvée partout, hein, dans tous les compartiments du jeu, jusqu'en plein 20e siècle. Aujourd'hui encore, Emmanuel Todd est un des derniers à la retrouver très régulièrement et à en parler, mais il a bien raison. Parce qu'elle continue d'être un peu agissante parmi nous, plus du tout avec la même force qu'hier, mais elle n'a pas disparu.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a une résistance sociologique, alors qu'il pouvait peut-être inquiéter les missionnaires envoyés dans cette aire de mission française, parce qu'on sent que les choses sont lourdes, que les faits résistent au volontarisme, dans un sens comme dans l'autre. Toutefois, ce que nous apprend votre livre, alors on va rentrer dans le cœur du sujet, c'est que cette résistance sociologique, elle était démentie par le fait et les suites des événements, un tournant que vous situez au milieu des années 60, où là on n'est plus dans la calcification, mais dans le crack, comme nous le disions. Alors que s'est-il passé ?
Ah là là, alors c'est ça l'affaire, et moi je suis rentré là-dedans par le dossier de Boulard, parce que Boulard, au fond, après avoir compté pendant 20 ans méthodiquement entre 45 et 65, avait conclu en gros à la stabilité globale des taux dans la longue durée en disant « dormez bien, bonnes gens, il ne se passe jamais rien de cette histoire », en tout cas beaucoup moins qu'on ne le pensait avant de l'avoir étudié. Et au moment même où il dit ça, alors de tous ses correspondants dans les diocèses lui remontent des cris d'alarme de gens qui lui disent « monsieur le chanoine, ça plonge, il se passe quelque chose ». Donc, comme c'était un homme d'une grande rigueur intellectuelle, il a repris le collier et il a produit, à la fin des années 60 et au début des années 70, une analyse très approfondie de ce qui était en train de se passer. Et moi, je suis parti de ça. Je suis parti de cette analyse, de cette que j'ai mis à jour, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé à l'époque. C'est resté très discrètement dans les cartons d'archives. Et je suis parti des constats de Boulard de l'époque. Et son premier constat, il a été le premier surpris, c'était qu'effectivement, était en train de se produire une rupture spectaculaire, c'était un plongeon des courbes, qui datait probablement, qui avait démarré, qui était devenu très visible au milieu des années 60. En 65-66, et au départ, il était plutôt parti avec l'hypothèse 68. Il y avait deux hypothèses 68. Il y avait une hypothèse...
Tout le monde y pense spontanément.
Oui, il y avait une hypothèse 68 de droite, en gros, qui consistait à dire c'est la faute à mai 68. De fait, les effets décapants de mai 68 dans le milieu chrétien, militant et clérical ont été spectaculaires. Et puis, il y avait une autre hypothèse, je dirais, qui était plus celle des catholiques de gauche, qui consistait à dire c'est la faute à cette encyclique que vous avez mentionnée tout à l'heure, Humanae Vitae, du pape Paul VI, sur la contraception. Là aussi, je vous la fais courte, mais en gros, il y avait un vaste débat dans le monde catholique sur la question de savoir si on pouvait légaliser, dépénaliser le recours à la contraception chimique, la fameuse pilule qui date du début des années 60. Puis après avoir beaucoup hésité, fait des allers-retours, réuni des commissions, cogité dans la longue durée, le pape Paul VI a considéré qu'il ne pouvait pas faire un tête-à-queue à la doctrine catholique dans ce domaine, et il a réaffirmé la doctrine traditionnelle, donc la contraception, la condamnation de la contraception, en juillet 68, juste après les événements de mai, ça tombait mal pour lui dans la conjoncture, et ça suscitait une crise carabinée dans toute une partie du milieu catholique. Donc, moi, je suis parti de là. Il y avait ces deux hypothèses 68, mais Boulard s'était aperçu qu'en fait, c'était un scénario de double rupture qu'il fallait penser. Une première au milieu des années 60 et une deuxième qu'il avait amplifiée et sans laquelle, d'ailleurs, peut-être elle ne se serait pas expliquée, les ruptures de 68. Alors, à partir de là, voilà, et moi, il fallait que je... Il y a un événement qui se produit dans ces courbes étales dans la longue durée, et l'hypothèse que j'ai avancée, Boulard lui-même l'a bien vu et a fini par y venir, mais avait beaucoup de réticences pour des raisons évidentes, c'était que le Concile Vatican II pouvait avoir eu un rôle dans le décrochage de ces courbes de pratique dominicale. On parle de pratique dominicale, on ne parle pas forcément du reste. Et donc, ma thèse a été de dire que, comme dans le petit texte que vous avez lu en introduction, que probablement que le Concile avait joué un rôle déclencheur, que ce n'était pas simplement une pure coïncidence chronologique, mais qu'il devait bien y avoir un lien, lequel tout est là, mais qu'au minimum, il y avait un rôle déclencheur. C'est-à-dire que l'événement avait en quelque sorte enclenché quelque chose.
Car vous l'observez dans les statistiques et les remontées de pratique.
Voilà, qu'on observe dans les courbes de pratique de façon très nette, même si une des difficultés, et ce qui a rendu la chose un peu difficile à percevoir pour les contemporains, c'est qu'on était en plein baby-boom, on était à la fin du baby-boom. Ça veut dire qu'il faut bien avoir en tête que dans l'ancien monde, dans la France du début des années 60, la pyramide des âges de la pratique catholique est très saine. C'est-à-dire que vous avez toujours beaucoup plus d'enfants que de jeunes et beaucoup plus de jeunes que d'adultes. Parce que tout repose sur la communion solennelle à 12 ans. Tout le monde fait sa communion solennelle à 12 ans. 80 ou 85% de la génération. Ce qui veut dire catéchisme de 3 ans en amont obligatoire, avec messe obligatoire. Donc il y a énormément d'enfants et de jeunes dans ces églises. Ce qui fait qu'il faut avoir en tête que le baby-boom, c'est plus de 100 000 naissances par an à partir de 1945 par rapport à la natalité déprimée des années 30, à la fin des années 30. Donc il y a une vague démographique énorme qui a rempli les écoles, les catéchismes et les églises dans les années 50, qui sont pleines de gamins, il y en a partout. C'est pour ça que les gens qui ont vécu l'ensemble de la courbe, ils en restent comme de ronds de flanc, parce que leur souvenir d'enfance, c'est des églises pleines. Des églises pleines d'enfants, de jeunes, un peu partout. D'ailleurs, plus la région est déchristianisée, plus il y a d'enfants et de jeunes dans l'assistance dominicale, en fait, et moins d'adultes. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Je dis ça parce qu'il faut avoir en tête que si la pratique dominicale a, comme je le crois, décroché de presque un quart en deux ans, ça a été un peu masqué par la vague démographique en visuel de nef pour le curé qui fait son sermon, parce qu'en réalité
son
il y avait...
L'église est toujours pleine.
L'église est toujours pleine, mais, dans la... mais il accroche, voilà, il accroche 25% de moins de la génération. Donc cette affaire de communion solennelle est très importante, parce que le rite de la communion solennelle, le rite de passage de la communion solennelle, accrochait une grande partie de la génération, s'est mis à en accrocher une moindre partie. Et le décrochage post-communion, qui commençait le dimanche d'après la communion, a été multiplié par deux. Donc si vous additionnez un moindre accrochage d'amont et un plus grand décrochage d'aval, vous avez une rupture considérable chez les jeunes.
On dit donc effet d'accélération du concile ou déstabilisant. Reste à expliquer pourquoi, selon quelle modalité. Ça paraît pas évident qu'un concile de modernisation dans une société en mutation aboutisse à un décrochage plus important. On aurait plutôt spontanément l'idée qu'une institution qui reste, et c'est encore une des lectures, ou en tout cas la plupart des gens l'envisagent comme ça, que si l'Église ne séduit plus, c'est parce qu'elle n'a pas accompagné les mouvements de la société. Ce que vous nous expliquez là, c'est que l'amorce de ce mouvement de modernisation crée, en tout cas dans un premier temps, un trou d'air considérable.
Oui, pourquoi? Alors, je suis obligé d'aller en courant, mais je veux rappeler simplement une chose pour bien qu'on me comprenne. Ce que j'ai désigné au milieu des années 60, ce que j'ai appelé la rupture de pente religieuse du milieu des années 60, signifie qu'il y avait une pente très ancienne, avec des facteurs très puissants qui poussaient dans la pente, renouvelée au milieu des années 60. Mais il y a effectivement cette rupture au milieu des années 60. Alors la question que vous posez, qui est évidemment la question que tout le monde se pose, qui renvoie à des débats internes très vifs au sein du monde catholique, puisque les contemporains eux-mêmes et les acteurs de l'événement n'ont pas eu la même analyse en temps réel de la situation. Certains considéraient effectivement que cette réforme était absolument nécessaire pour ne pas devenir une tribu de martiens dans l'environnement extérieur, et d'autres que ça n'avait pas été une bonne idée, et qu'au contraire, c'était le début des malheurs du catholicisme français, en tout cas. Bon, alors il y a ces deux thèses, au fond, la thèse un peu progressiste et la thèse conservatrice. Comment est-ce qu'on peut penser le décrochage des courbes de pratique dominicale? Le concile n'a pas, évidemment pas dit qu'il fallait arrêter d'aller à la messe. Et il a très peu parlé, d'ailleurs, de ces problèmes de pratique dominicale qui sont très marginaux dans sa perspective de modernisation d'ensemble du catholicisme, puisqu'on peut définir le concile comme une entreprise coordonnée de modernisation du catholicisme, correspondant en gros aux aspirations des milieux avancés du catholicisme ouest européen. Ça a eu un effet sur la courbe, malgré tout, un effet indirect sur la courbe, pour diverses raisons, mais je crois qu'il y en a deux qui sont importantes. La première, c'est ce que j'ai proposé d'appeler dans mon bouquin la sortie du régime de la pratique obligatoire sous peine de péché mortel. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, parce que, et qui demande pour les catholiques contemporains qui n'en ont jamais entendu parler, des efforts d'imagination considérables, c'est de bien voir que dans le régime antérieur, encore au début des années 60, la pratique était donnée comme gravement obligatoire en conscience pour les catholiques, que si on s'en abstenait sans motif légitime, il fallait en obtenir l'absolution dans la foulée sous peine de péché grave, et que c'était articulé sur toute une, on pourra en parler, de toute une prédication du salut et des fins dernières, qui était très axiale dans la définition même du catholicisme. On l'a tout à coup, sans que ça corresponde à aucune consigne, ni pontificale, ni conciliaire, ni épiscopale, au fond, on a commencé à généraliser la conception de la pratique qui s'était inventée dans les 20 ou 30 ans qui avaient précédé dans les milieux de l'action catholique, les milieux militants de l'action catholique, qui consistaient à dire, écoutez, cette affaire de pratique, c'est évidemment important, mais il ne faut pas absolutiser ça, l'essentiel, c'est les comportements évangéliques, à la limite, vaut mieux que vous n'alliez pas à la messe si c'est pour vous comporter comme des sagouins dans votre vie sociale ou politique par ailleurs, etc., etc. Autrement dit, il y a eu un effet de relativisation évangélique de l'exigence de la pratique, qui a fonctionné comme un, je dirais, une sorte de signal de démobilisation collective. C'est-à-dire que, et le paradoxe, et c'est le deuxième aspect de cette affaire, c'est que ce n'était pas du tout vécu comme une rupture, j'allais dire, avec le christianisme, c'était au contraire, potentiellement vécu comme un progrès dans le christianisme.
Un christianisme façon, réel.
Un christianisme
vécu.
Réel, un christianisme vécu, un christianisme réel. Et du coup, on a ce paradoxe d'un décrochage qui n'est pas du tout vécu dramatiquement par les contemporains quand ils le voient, parce qu'ils ont plutôt tendance à le mettre, non sans quelques raisons, sur le compte d'un changement du régime ordinaire de la pratique, qui passe d'un système d'obligation à un système d'options libres, relativisé par des exigences qui apparaissent plus importantes, la liberté de conscience, les engagements sociaux, politiques. Et donc je crois qu'il y a eu un effet imprévu du Concile en France, parce qu'après la réception du Concile est très variée d'un pays à l'autre, qui a été ce changement de système de la pratique. Des choses qu'ont bien vu, je pense à un historien par exemple comme André Latreille dans les années 70, qui était un grand spécialiste de ces questions. Il a parlé de ce changement saisissant dans la conception même de la pratique qui avait produit cet effet de démobilisation. Et je pense que c'est un des éléments qui contribue à expliquer ce plongeon. Il y en aurait bien d'autres, notamment les changements de méthode éducative. C'est-à-dire que la messe était obligatoire pour les enfants, surtout, qui était la dernière clientèle captive du système, c'était les enfants, en lien avec la communion solennelle. À partir du moment où, dans le domaine religieux comme dans le domaine profane, on s'est mis à adopter des méthodes éducatives fondées sur la négociation, le deal, quand vous avez trois trucs à négocier avec vos enfants, vous donnez la priorité aux études et vous sacrifiez la pratique dominicale pour obtenir des résultats sur le premier terrain. Et je crois que là, il y a eu aussi un effet de deal intrafamilial, en fait, qui s'est généralisé. On le voit très bien dans les fratries, parce que souvent, les aînés n'ont pas été cadrés de la même manière que les cadets. Et les gens s'en souviennent dans les familles. C'est pour ça qu'il faut faire des monographies familiales, parce que c'est la bonne échelle d'observation.
C'est la prochaine étape, oui.
Et les gens se disent, bon, ben, moi, je me souviens, né en 1950, d'avoir été formé à l'ancienne. Les baby-boomers, au fond, les 68-ards sont des héritiers rebelles. Mais c'est des héritiers.
Oui, ils avaient un pied dans l'ancien monde.
Ils sont nés dans l'ancien monde. Leur formation vient de l'ancien monde. Et c'est pour ça que le baby-boom, c'est 20 ans, mais ce n'est pas du tout la même chose d'être né en 1960 ou d'être né en 1945.
Mais c'est pour ça que c'est très intéressant dans ce que vous venez de dire. Baby-boomers ont un pied dans l'ancien monde, un pied dans le nouveau. Lorsqu'on laisse les ouailles qui avaient été formées dans cet ancien monde ne plus venir à la messe tous les dimanches, cesser une pratique très tournée vers l'extérieur, le paraître, on va dire, une forme d'hypocrisie ou de conformisme en tous les cas, on continue à avoir des chrétiens, mais qui vivent leur foi différemment. Mais ce qu'en même temps, ça ne casse pas la transmission, justement. Il y a un moment où vous dites, je ne sais plus quel chanoine ou pasteur explique qu'à la messe, il n'y a pas des individus, comme le sous-entend ce discours de libre conscience, il y a des familles.
Oui. Ah, c'est tout le débat sur ce catholicisme sociologique. C'est-à-dire cette idée, c'est un concept qu'on doit à Gabriel Le Braz dans les années 1930. C'est-à-dire des gens qui seraient à la messe un peu pour des raisons sociologiques, des raisons externes, qui sont là, tenus par le cadre, mais qui n'y sont pas pour des raisons personnelles. Ça correspond à une réalité, à la réalité d'un certain catholicisme populaire, mais c'est aussi croire ou laisser entendre qu'il pourrait y avoir un catholicisme non sociologique, c'est-à-dire un catholicisme qui n'est pas de corps. Or, effectivement, le clergé savait bien, encore au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, que l'unité de base de la pratique, c'était la famille. Les gens venaient en famille, tenus par ce cadre. Sauf ceux, effectivement, les enfants de non-pratiquants qui venaient au catéchisme sans leurs parents, mais le gros des effectifs venaient en famille. Et donc,
la reproduction, c'est par les familles.
Et la reproduction, qui était les quelques enquêtes dont on dispose avant 1960 dans certains diocèses, je pense au diocèse de Besançon, on a une enquête de reproduction par famille. Quand on regarde les familles catholiques dans lesquelles les deux parents sont pratiquants, on a une compacité, un taux de reproduction qui est quasi à 100%. C'est-à-dire qu'il y avait une efficacité reproductive de ce système dans une société qui s'y prêtait, avec des normes un peu autoritaires de transmission, qui était remarquable. Et le passage au régime de la liberté a été absolument redoutable. Et on le voit très bien quand on regarde cette courbe de la pratique par âge en 1960, avec ce grand plongeon de la pratique après 12 ans, quand la communion solennelle est terminée. Au fond, le système s'est cassé par sa zone de faiblesse structurelle depuis le début du 19e siècle, qui est le décrochage des jeunes. Les jeunes décrochent toujours, parce qu'au fond, une génération décroche à partir de 12 ans et allait prendre ses positions religieuses définitives à 20 ou 25, avec son taux à 25%, en partant de 80%, on perdait 55% de la clientèle en 8 ans. Donc ça, c'était normal, ça décrochait toujours, mais il y avait un plancher, c'est-à-dire qu'on s'arrêtait à 25. La nouveauté, là, c'est que les baby-boomers décrochent comme tout le monde, comme leurs prédécesseurs, d'une certaine façon. C'est pour ça qu'on ne s'en est pas alarmé outre mesure. Mais ils ont été prendre leur position religieuse trois crans au-dessous, ce qui nous parle au moins autant d'eux que de leurs parents, d'ailleurs, qui les ont laissés faire, ou qui les ont laissés faire, ou qui n'avaient probablement pas le choix. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une société où il n'y avait plus moyen de les arrêter au plancher, au premier étage, et qu'ils sont descendus à la cave, sans que personne n'ait pu y faire grand-chose. Ça, c'est la mutation socioculturelle qu'on retrouve dans les pays de culture protestante, avec une chronologie un peu différente, c'est pas spécifiquement catholique ni français.
Mais ce qui signifie que le véritable effondrement et la dynamique d'effondrement qui n'a pas cessé depuis passe probablement par le fait que si on s'éloigne de l'institution, malgré tout au début on prend sa liberté avec l'institution, mais on reste quelqu'un qui a été formé par elle et qui partage encore peu ou prou son univers mental, mais la génération suivante, elle se retrouve totalement comme un atome en liberté qui n'a pas reçu. C'est-à-dire qu'ils ne font même plus de choix, c'est un choix par défaut.
Oui.
Les jeunes qui étaient insérés dans ce système institutionnel et social recevaient un héritage, décidaient de le faire fructifier ou pas, et on avait ces étiages de vous dites, post-communion, une pratique qui se fixait à un étiage. Mais à partir du moment où on ne passe plus par cette matrice, c'est comme s'il y avait juste une absence, non ?
Oui, alors ça fait réfléchir beaucoup sur la laïcité française, parce que ça veut dire que la laïcité française, ce que j'ai essayé de montrer dans mon bouquin aussi, vit sous perfusion catholique. C'est-à-dire qu'au fond, la laïcité est une façon de sortir du catholicisme de son enfance. Dans la France, encore de 1965, tout le monde est formé dans la matrice, avec des niveaux d'implication des parents très variables, des niveaux de ferveur, hein, du catholicisme le plus nominal au catholicisme le plus fervent, mais il y a quand même une matrice commune, et les laïcs sont au fond des gens qui ont reçu dans leur enfance une certaine éducation religieuse et qui choisissent de prendre leur distance à l'âge adulte avec cette éducation. Il y avait une espèce de système fonctionnel. Les catholiques, qui par ailleurs étaient plus vivants démographiquement que le camp laïque, donc on fabriquait plus à chaque génération de petits catholiques que de petits laïcs, le camp de la laïcité vivait de cette perfusion permanente, ce qui rajeunissait aussi son combat périodiquement, parce qu'il y avait des nouveaux arrivants du catholicisme émancipés d'hier ou d'avant-hier, et on peut passer sa vie à sortir du catholicisme. Ça peut, si on a reçu une éducation catholique, on peut étaler sa sortie sur toute son existence, ça vous suffit, ça vous tient lieu de métaphysique. Bon, simplement, effectivement, tout le problème, c'est la deuxième génération. Et là, un des aspects, mais ça c'est pas central dans mon livre parce que c'est plus un problème de sociologue contemporain, mais qui explique pas mal l'évolution actuelle du catholicisme, c'est que les familles, disons, de type plus classique ou conservatrice ont généralement eu des taux de transmission de la foi supérieure aux familles qui avaient pris un peu le move de la modernisation et des options plus libérales. Et du coup, à moyen terme, deux ou trois générations plus tard, quand vous faites là aussi des bilans dans les familles, le centre de gravité du catholicisme français, non pas forcément de son establishment et de ses états-majors, mais de sa réalité sociologique, se déplace un peu sur sa droite parce que, au fond, ceux qui ont pris le train de la modernisation un peu à minima s'en sont souvent mieux sortis que ceux qui avaient joué la carte de l'adaptation à plein.
Bon, pour relativiser un petit peu le tableau aussi et élargir un peu le champ, est-ce que cette désaffection massive à l'égard du catholicisme et de la pratique religieuse, c'est pas finalement aussi ce qui arrive à toutes les institutions aujourd'hui? Ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression que le camp non catholique ne cesse de croître, mais ce camp, on ne peut pas le nommer. Ce n'est pas quelque chose d'alternatif, c'est plutôt la somme de quelque chose qu'on ne peut pas définir. C'est-à-dire qu'au même moment, il y a des désaffiliations à l'égard des syndicats, des partis politiques et de toute autre institution. La crise de la transmission, elle ne se résume pas finalement à la sphère religieuse. La société entière est atteinte par une crise de la transmission. Après tout, il y a une crise de la famille, il y a une crise de l'école, il y a une défiance incroyable à l'égard de toutes les élites. Est-ce que finalement, lorsqu'on continue à appliquer des grilles de lecture du genre laïque ou libre-penseur contre... Parce que qui est libre-penseur aujourd'hui, c'est quand même une pensée exigeante aussi. La libre-pensée, l'authentique libre-pensée, je ne croise pas beaucoup de libre-penseurs aujourd'hui. Je ne vois pas d'organes de presse de libre-penseurs. Je ne pense pas que les loges de village, même dans le sud-ouest, recrutent énormément. J'ai l'impression que simplement, on vit dans un monde où chacun... veut simplement... C'est-à-dire que la liberté de conscience est devenue simplement une liberté de tout court, oui, de ne pas s'affilier, de ne pas se reconnaître de devoir à l'égard de qui que ce soit. et alors, même ça, de soi-même. Je vais peut-être
laisse,
un petit peu loin.
Je vous laisse.
Non, je force le trait, mais pour faire apparaître quelque chose.
Mais voilà, mais c'est ça, c'était pas tout à fait mon objet, mais parce que évidemment, l'historien, même s'il part des années 60-70, se met un peu au clair au préalable sur la situation présente pour savoir ce qui va rétroprojeter dans le passé, ce qui recouperait peut-être un peu vos analyses, c'est plutôt les constats qu'ont fait les sociologues contemporains de la montée spectaculaire dans les pays européens et même en Amérique du Nord de ce qu'on appelle les nones, c'est-à-dire ceux qui ne déclarent aucune identité religieuse dans les enquêtes, en particulier chez les jeunes. Hein, c'est aujourd'hui près de 60% des jeunes en France qui ne déclarent pas d'identité religieuse, qui sont des nones. Donc là, il y a effectivement, une des conséquences lointaines de ce que j'ai tenté d'analyser dans ce livre, c'est-à-dire de ce décrochage. Maintenant, il est évident que cette crise catholique fait partie d'une crise plus globale, dont elle n'est que la version catholique, en quelque sorte. C'était la grande thèse d'un livre très important pour moi et qui fait beaucoup réfléchir de Denis Pelletier sur la crise catholique, qui porte sur les mêmes années que mon livre, hein, les années 65, 78 ou 80. Et la thèse de Denis Pelletier, au fond, consiste à dire que cette crise catholique a des facteurs socio-culturels et qu'elle n'est que la version catholique de la crise plus générale de la société française qui s'est exprimée aussi bien sur le terrain syndical que sur le terrain politique. Et il y a beaucoup de vrai là-dedans, parce qu'il est évident que si la crise a été aussi bien protestante que catholique, française qu'européenne, avec des nuances, des gradients et des modalités particulières, c'est que le carburant est fondamentalement socio-culturel. Donc là, je ne suis pas du tout en train d'essayer d'isoler la crise catholique du monde extérieur. Simplement, ce que j'ai voulu faire en arrivant dans ce champ d'études après précisément Denis Pelletier et d'autres, c'était rappeler que malgré tout, c'est de changements religieux qu'il s'agit et qu'il faut nous expliquer comment on peut passer d'une mutation socioculturelle à une mutation religieuse. Pourquoi un jour les gens se réveillent en disant qu'ils s'assoient sur le christianisme de leur enfance. Donc là, il y a des causalités religieuses dont il faut tenir compte. Donc moi, j'essaie de dessiner une interprétation un peu intermédiaire entre une lecture purement socioculturelle de la crise et une lecture purement religieuse à la manière des milieux traditionnalistes qui voyons, c'est la faute à Vatican II. Il faut à la fois trouver les enclencheurs et arriver à articuler les causes religieuses et les causes socio-culturelles. Parce qu'après tout, on pourrait aussi bien dire que la crise a l'air d'être culturelle, mais que la culture n'a fourni que les matériaux d'une crise spirituelle qui, elle, procède de causalités différentes, etc. Donc c'est très compliqué. Dès qu'on s'approche de l'objet et qu'on le regarde de près, les choses deviennent très complexes. Mais en même temps, c'est ça qui est un peu excitant, parce que c'est vraiment sur le plan intellectuel, sur le plan historien, c'est historique, ça pose des problèmes de causalité énormes. C'est-à-dire, c'est quoi la causalité? Ça vient d'où? Et on peut en débattre. Il y a un côté un peu irréductible dans ces débats. Hein. On ne se convaincra pas tous mutuellement, parce qu'il y a une part d'incertitude dans le raisonnement qui n'est pas éliminable. Mais il faut commencer, et moi c'était peut-être la leçon de mon bouquin, il faut commencer par établir la chronologie. Et ça, c'est fondamental. Il faut compter et établir la chronologie. Et à partir de là, ça élimine un certain nombre de choses. Bon, ça ne résout pas tous les problèmes, ça ne nous donne pas la clé fondamentale de cette affaire, mais ça élimine un certain nombre de fausses idées dont on se contente souvent dans et hors de l'Église, qui sont des choses un peu paresseuses, qui sont nées de l'événement lui-même, qui relèvent plus de la philosophie de la misère généralement que de l'analyse scientifique. Donc voilà, et c'est pour ça que les archives de Boulard sont très utiles, parce qu'il y a de la stat, c'est établi très rigoureusement, et ça me paraissait intéressant de mettre ça à jour.
Pour conclure, si vous voulez bien, j'ai bien compris que le père Boulard, lui, avait des arrière-pensées missionnaires, qu'il souhaitait faire œuvre utile pour son institution. Votre livre est un ouvrage d'historien. Toutefois, il peut être intéressant de savoir quelle a été sa réception dans les milieux concernés.
Alors, il a suscité une discussion. Il a eu un certain succès, même, en un sens. Et j'en étais content parce que je cherchais aussi, même si je fais mon boulot d'historien, il y a plusieurs conceptions du métier d'historien. Mais moi, je considère qu'on a quand même vocation à participer à la discussion collective et à faire avancer un peu le Schmilblick. Donc, je me félicite du fait qu'il y ait eu cette discussion. Mais disons en gros, vous avez toute une partie, je dirais l'aile droite du bon Dieu, les milieux traditionnalistes et intégristes qui ont été heureusement surpris de voir tout à coup un universitaire, peut-être de gauche,
publié au seuil,
se mettre à valider une partie de l'analyse. Alors généralement, de leur constat plus exactement, pas de leurs explications, mais de leur constat. Moi, ça ne me pose pas de problème personnel de savoir qui me lit et qui me reçoit, mais ce que je constate évidemment, c'est qu'ils ont tiré l'analyse que j'ai essayé de rendre subtile, complexe et nuancée. Chacun, évidemment, mais ça c'est le jeu, il n'y a pas lieu de s'en indigner, chacun tire l'analyse de son côté. Donc, il y a eu une réception assez large dans ces milieux-là. Il y a une sorte de malaise et de perplexité dans l'establishment ecclésiastique et catholique, parce qu'il y a à la fois des faits, c'est pas moi qui les invente, c'est Boulard qui les a déterminés, qui était le spécialiste pour le compte de l'épiscopat de ces questions. Et je dirais, on a toujours intérêt à la lucidité dans l'analyse. Je ne prétends pas du tout que mon analyse soit incontestable sur tous les points. Je disais tout à l'heure, il y a des problèmes d'interprétation, il y a des faits à compléter, mais ça va, j'espère, enclencher, hein, je dirais, un travail de reconsidération des thèses reçues sur le sujet. C'est pas anormal qu'à 50 ans de distance d'un événement, la documentation aidant et le recul, on commence à produire une version un peu intermédiaire de ces événements. Voilà. Bon, alors après, la réception n'est pas terminée, on va voir, mais il y a eu, voilà, il y a une discussion, ça a suscité une discussion.
Et dans le milieu universitaire ?
Dans le milieu universitaire, l'accueil est plutôt positif et favorable, parce que cette documentation de Boulard, elle est très impressionnante et elle ne peut qu'intéresser tout le monde, parce que ça nous parle du catholicisme français qui était quand même la religion de 93% des Français en 1965, donc c'est quand même pas anecdotique d'une part, mais en plus ça nous parle de la société française de l'époque, en particulier des milieux ruraux. Il y a une documentation formidable, il n'y a pas tellement l'équivalent, hein, pour savoir ce que c'était que les campagnes françaises des années 45-65. Il faut aller voir ces dizaines, ces centaines de mètres linéaires d'archives qui sont dans tous les diocèses de France. Aucune institution, à part l'Église catholique, ne s'est engagée dans un tel exercice d'auto-analyse sociologique, si rigoureux, si approfondi, qui fait qu'on a des moyens de photographier la société française à l'époque sans tellement d'équivalent à l'extérieur.
En revanche, ce qui est très étonnant, c'est que peu avant sa mort, Boulard demande l'autorisation de la transmettre à l'université, c'est-à-dire que l'intérêt sociologique et les moyens déployés pour y répondre se sont progressivement éteints. C'est parce que les informations qui remontaient de la base ou de ces enquêtes n'étaient pas bonnes que l'Église passe à autre chose. Ou comment expliquer ce déclin de l'intérêt ?
Oui, alors d'abord, l'Église est très libérale parce qu'elle accepte de transmettre sa documentation sur sa sociologie, ses courbes, à l'université. Ça, c'est l'Église conciliaire, ouverte, qui ne craignant pas le monde extérieur, le regard extérieur. Elle arrête de compter parce qu'au fond, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, ça renvoie au changement de régime de pratique. C'est-à-dire qu'elle commence à se dire que le problème n'est pas de savoir s'il y en a plus ou moins dans les nefs, c'est pas là que ça se passe. Et elle passe à une perception considérée comme qualitative du christianisme, qui est beaucoup plus subjective en réalité. Et du coup, Boulard, qui était l'homme des courbes...
Seuls Dieu sont les reins et les cœurs, donc ça permet d'éteindre aussi...
Oui. Et puis, mais je crois que c'est pas que ce soit la volonté de cacher le décrochage, parce que le décrochage, ils s'en sont aperçus un peu après, à la fin des années 60, début des années 70. Donc, c'était pas une volonté de cacher quelque chose, mais c'était l'idée que, voilà, savoir combien il y en a, s'il y en a 5% de plus ou 5% de moins, finalement, ça nous a passionnés hier, mais ce n'est pas très pertinent dans le Nouveau Monde. Je crois que c'était plutôt ça, leur raisonnement.
Alors, votre conclusion, ça lance une sorte d'appel à poursuivre la recherche, car le sujet n'est pas épuisé. Quelles sont les pistes pour continuer à mieux percevoir cette mutation d'énorme ampleur?
Alors, il y en a plusieurs, mais il y en a une que je signalais tout à l'heure. J'en parle parce que c'est un appel au public. Ça, chacun peut se livrer à l'exercice pour son propre compte et dans son propre monde. C'est de faire des monographies familiales. Il faut regarder l'histoire religieuse de sa famille sur 4 générations, 5 générations, essayer de remonter à l'entre-deux-guerres, voire même avant la guerre de 14, et d'étudier les transmissions. Précisément intergénérationnel, parce que la transmission, ça a été un peu l'angle mort de cette sociologie classique du catholicisme. On s'intéresse aux individus isolés qui pratiquent ou qui ne pratiquent pas, sans les remettre dans leur famille et sans calculer les taux. Alors que la monographie familiale permet à la fois de calculer les taux, de savoir pourquoi ça a disparu, pourquoi ça s'est maintenu, et peut-être d'avancer des éléments d'explication un peu fins vu de l'intérieur par des gens qui ont connaissance un peu de la multiplicité des variables qui ont vu intervenir dans le destin religieux des uns et des autres. Donc il y a vraiment là, je crois, un champ d'études formidable. Puis c'est aussi faire l'arbre généalogique spirituel de sa famille, ça peut ne pas être totalement inintéressant. Donc voilà, avis aux amateurs de monographie familiale.
Écoutez, il n'y a pas doute que cet appel puisse être entendu, car nous sommes certainement dans une période où il y a à la fois un désir, on le voit par le succès de la généalogie d'ailleurs, de réenracinement dans une histoire familiale personnelle, et le souhait de s'y inscrire, de comprendre et de se projeter et de transmettre. Et transmettre, c'est précisément la vocation de Canal Academy. Donc merci d'avoir conclu sur cette nécessité de transmission. Vous-même, vous allez poursuivre ces travaux par ce biais-là?
Oui, moi je m'intéresse à cette affaire de monographie. J'essaye avec des sociologues de réfléchir à la manière dont ça pourrait être conduit de façon un peu systématique. Voilà, il y a d'autres enquêtes aussi dans les maisons de retraite du clergé. Ça, j'attire l'attention là-dessus. Il y a beaucoup de maisons de retraite du clergé. Vous avez des gens qui ont une mémoire extraordinaire de ce qui s'est passé, qui sont nés dans les années 20-30. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à apprendre.
Écoutez, si l'appel est entendu, en tout cas, et puis pour tous les autres aussi, je ne saurais que inciter chacun à se plonger dans Comment notre monde a cessé d'être chrétien, Anatomie d'un effondrement, par Guillaume Cuchet, livre appelé donc à se poursuivre par des travaux ultérieurs. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous.
Merci à vous.